Deuxième partie. Chapitre 1. Belloc avait eu tout d'abord l'intention de n'employer Marichette qu'à écrire des lettres confidentielles, mais il n'avait pas tardé à trouver que c'était peu et qu'on pouvait exiger d'elle davantage. Il n'avait pas des lettres confidentielles à lui dicter toute la journée. Que ferait-elle s'il ne l'employait pas à autre chose ? Mauvaise pour la jeunesse, l'oisiveté. N'était-il pas juste qu'elle gagnât sa vie ? Il avait toujours, dans un coin de son excellente mémoire, le chiffre qu'il avait payé pour la robe, 90 francs. C'était une somme, cela, et pour lui d'autant plus grosse que c'était la première fois qu'il dépensait son argent chez une couturière. Comme il avait été bien avisé de ne pas se marier et de ne pas se charger d'enfants, c'était une ruine. 90 francs, il fallait rattraper cela. Défiant comme il l'était, il n'avait que deux commis, alors qu'il lui en aurait fallu trois ou quatre. Mais avec deux, il avait juste moitié moins d'indiscrétions et de trahisons à craindre qu'avec quatre, et cette raison, plus encore que celle de l'économie, le faisait s'en tenir à ce nombre. Le travail pressé qu'il ne pouvait pas achever au bureau, il emportait le soir chez eux et il le leur payait en supplément, à l'heure ou au rôle. Il est bon pour les jeunes gens de n'avoir pas le temps de s'amuser la nuit. Ils sont plus appliqués dans la journée et un bénéfice qui vient grossir les appointements réguliers est toujours agréable. Ils n'étaient riches ni l'un ni l'autre, Paulin et sa mère n'ayant pour toute fortune que la maison dans laquelle ils demeuraient, Victor devant soutenir sa famille, composée d'un père ivrogne, d'une mère malade et de cinq personnes, frères, sœurs, tantes. Puisque Marichette avait une bonne écriture, pourquoi ne la chargerait-il pas de ses travaux supplémentaires qui se faisaient en dehors des heures de bureau ? Cela serait une occupation pour elle. Il ne faudrait pas longtemps, assurément, pour qu'elle apprît à copier des mémoires d'entrepreneurs et des factures de marchandises. Elle lui coûtait assez cher pour qu'il lui fît gagner un peu de l'argent qu'il dépensait pour elle. Il avait donc chargé Paulin et Victor de la mettre au courant de ce travail de copie en les rendant responsables des erreurs qu'elle pourrait faire, et cela avait amené des relations de chaque instant entre elle et les deux jeunes gens, surtout entre elle et Paulin, à qui elle avait à demander, bien plus souvent qu'à l'autre commis, des explications ou des renseignements pour les mémoires et les marchés de construction remplis de détails compliqués ou de mots qu'elle voyait pour la première fois. Fourni deux stores en bois peint, deux couches et bordées, fixées sur rouleaux en fer creux de 0,022 de diamètre avec rondelles contre rondelles et tourillons montés sur support coudé contre coudé à empattement à pointes épaulées et à fourchettes. « Monsieur Paulin !» À cet appel, il accourait. « Vous avez quelque chose qui vous embarrasse, mademoiselle ?»« Empattement, cela prend deux thé ?»« Oui, mademoiselle, cela vient de pâte. »« Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, j'aurais dû deviner cela. »« Vous ne m'avez pas dérangé. » Et pour prouver ce qu'il disait, sans doute, il restait à causer jusqu'à ce que quelqu'un entrât dans son bureau ou jusqu'à ce que Marichette le renvoyât elle-même de peur d'être en retard dans la tâche que son cousin lui avait donnée. L'éternel sujet de leur conversation, c'était Psyte, inépuisable, toujours nouveau et qui paraissait intéresser Paulin presque autant que Marichette elle-même, ce dont celle-ci était touchée. Tout d'abord, elle avait cru qu'elle oserait un jour demander à son oncle la permission d'introduire son chien dans la maison. Mais ce jour n'était jamais venu. Le soir, en se couchant, prise de remords, elle se disait « Ce sera pour demain ». Et le lendemain, bien que préparée et ayant toutes sortes de choses attendrissantes et persuasives à dire, elle ne pouvait plus ouvrir les lèvres dès qu'elle regardait son oncle. Psyte était donc resté chez Madame Moreau et il ne voyait sa maîtresse qu'une fois par jour après déjeuner. Paulin alors le ramenait avec lui, mais sans le faire entrer dans son bureau. Il le laissait sur la place où Psyte se mettait à jouer avec les autres chiens ou à flâner, tout en revenant à chaque instant devant la maison en attendant qu'on l'appelât ou qu'on lui fît un signe, ce qui, bien entendu, n'avait lieu que lorsque Belloc sortait et qu'on savait qu'il ne rentrerait pas de bientôt. Aussitôt, Psyte accourait, et d'un bond, il était dans les bras de Marichette, avec des cris de plaisir qu'il essayait d'étouffer, tout le corps agité par des mouvements flexueux, les oreilles renversées en arrière, les yeux mi-clos, anéantis dans un transport de joie. Puis, quand il se calmait un peu, c'était des conversations, des caresses qui n'en finissaient plus. Alors seulement, il consentait à accepter la croûte que Marichette avait mise pour lui dans sa poche à la dérobée, et encore semblait-il que c'était plutôt pour remercier sa maîtresse que par gourmandise. Un jour, en rentrant plus tôt qu'on ne l'attendait, Belloc avait failli les surprendre. Paulin n'avait eu que le temps d'appeler Psy dans son bureau, où Belloc l'avait vu tout de suite en entrant. « Qu'est-ce que c'est que ce chien ?»« C'est notre chien !» avait répondu Paulin, n'osant avouer la vérité et croyant pouvoir risquer ce mensonge impunément, puisque le patron ne reconnaissait pas de site. « Ah, vous avez un chien maintenant. Ça doit vous aider à manger vos appointements. Vous me direz que ça ne me regarde pas, mais ce qui me regarde, c'est qu'il vous fasse perdre votre temps ici, et cela, je ne le veux pas. Vous tâcherez donc de le laisser chez vous, à la cour. » Dans ces conditions, il fallait user de précautions, et c'était pour cela qu'il était si souvent question de Psy entre eux, librement, quand Belloc était sorti, mystérieusement et en cachette quand il était présent. D'un mot, d'un signe, ils se comprenaient, et à la longue, cela avait créé entre eux comme une complicité. Ils se parlaient bas, ils échangeaient un coup d'œil furtif à la dérobée, ayant de terribles choses à cacher, et quand ils étaient seuls, ayant toujours des explications à se donner. Bien qu'il n'y eût pas entre elle et l'autre commis les mêmes sujets de conversation, et que les explications que celui-là eut à donner pour les factures de marchandises fussent beaucoup plus simples que celles qui se rapportaient aux devis ou aux mémoires de construction, il n'en venait pas moins dans le bureau du patron à chaque instant et s'y installait des heures. Mais avec lui, les choses ne se passaient pas du tout comme avec Paulin. Quand c'était Paulin, la conversation n'arrêtait pas, tous deux avaient mille choses à se dire. Au contraire, quand c'était Victor, il ne s'échangeait souvent pas 10 paroles entre Marichette et lui, et cependant, il restait là, comme s'il trouvait un plaisir extrême à se promener en long et en large, ou bien à se tenir, une épaule appuyée contre la muraille, perché tantôt sur une jambe, tantôt sur une autre, regardant devant lui sans parler, mais cependant, toujours sur le point de vouloir dire quelque chose, semblait-il. C'était pour Marichette un sujet de grande surprise que cette attitude. Que faisait-il là ? Pourquoi n'allait-il pas travailler alors qu'elle-même, penchée sur son papier, lui donnait l'exemple ? Mais si elle l'avait connu, ou plutôt si elle avait su ce qu'il racontait de lui-même, elle aurait été bien plus surprise encore. C'était en effet un vainqueur que Victor de dessus la mare, ou tout au moins avait-il la prétention d'en être un. De 2 ans plus âgé que Paulin, il avait autrefois poursuivi celui-ci du récit de ses conquêtes féminines, et s'il n'avait pas continué à l'étonner de ses histoires amoureuses, c'était parce que Belloc, qui pratiquait la maxime « diviser pour régner », avait eu soin de les empêcher d'être trop bien ensemble. Mais Paulin n'avait pas été son seul confident. Avant comme après celui-là, il en avait eu d'autres. Les 2 clercs du notaire, celui de l'huissier, le receveur de l'enregistrement, enfin toute la jeunesse intelligente, connaissaient ses succès par le récit qu'il en faisait. Il ne se prétendait pas, il ne se croyait même pas mieux qu'un autre. Mais enfin, par suite d'un heureux hasard, d'une chance particulière, les femmes n'en couraient pas moins après lui. Tout de suite, au premier coup d'œil, elles voyaient ce qu'il était, ce qu'il valait, sous tous les rapports. C'était pour ne pas les faire courir trop loin que tous les dimanches, pendant la saison des bains, dans l'après-midi, le seul temps où il fut libre, il se promenait, il se montrait sur la plage, passant et repassant, devant la tente et les chaises où se réunit le beau monde. Pour ses promenades, il faisait des toilettes d'un chic suprême qui absorbait ses pauvres économies. Bottines vernies, redingotes boutonnées, chapeaux de soie, gants de chevreau, canne à pommes dorées. Et le lendemain, c'étaient des histoires extraordinaires. 3, mon cher, 1 à 11 heures, 1 à minuit, 1 à 2 heures. Ah, si j'étais libre dans la semaine! Mais le dimanche, le jour justement où viennent les maris. Bien entendu, il ne citait jamais aucun nom parce qu'il était discret et que c'est par la discrétion qu'on gagne les femmes. Mais tous les confidents ne sont pas crédules, et s'il y en avait qui écoutaient Victor bouche béante, il y en avait d'autres moins jeunes qui riaient de ses histoires et se moquaient de lui. Pour cela, le vainqueur était au contraire un timide qui n'avait d'audace qu'en imagination, n'osait pas seulement lever les yeux sur une femme et n'aurait pas eu encore de maîtresse si une veuve de 49 ans ne l'avait attiré chez elle et retenu de force. Qu'il en voulût d'autre que celle-là, vieille, laide et méchante, on le croyait volontiers, mais qu'il n'osa jamais faire le premier pas et risquer la première parole, ceux qui le connaissaient bien ne l'admettaient pas. Ce qu'il pouvait y avoir d'audace en lui se répandait si complètement en discours qu'il ne lui en restait plus en action.